moi je suis de temps en temps des petites vidéos sur Maron Meir, qui est donc l'institut. Vous êtes responsable.
Où j'enseigne, disons.
Vous enseignez là, ben, et vous êtes responsable au niveau israélien.
J'étais plus vraiment, c'est une question d'accord. de...
Vous enseignez donc à cet institut Maron Meir, et puis vous enseignez à Eral Shlomo, devant, nous passons toujours devant, et vous avez fini votre cours à 11h.
Moins 5.
Moins 5, oui, pour nous. Ah oui. Voilà. voilà, et puis aujourd'hui c'est Shabbat, et notre ami est aussi le rabbin d'une communauté dans le quartier de Kiryat Moshe, donc il va bien falloir rentrer assez vite. Donc j'ai demandé comme thème Israël et les nations. Voilà, et on vous écoute.
Bah, voilà, je vous remercie beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et, oui ?
Pardonnez-moi, avec grand plaisir.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis désolé parce qu'on m'a demandé une intervention d'une heure et demie, ce qui n'est pas possible étant donné l'emploi du temps est extrêmement serré. Vous allez devoir excuser également mes erreurs de français, ma langue naturelle étant l'hébreu, mais je vais faire des efforts de parler votre langue. Donc, on m'a demandé d'intervenir à propos de ce qu'on appelle Israël et les nations. J'ai fait savoir tout de suite, vous savez que les Juifs ne sont pas des chrétiens. Et donc on dit...
Oui, vous m'avez dit au téléphone, ouais. Je ne suis pas un rabbin chrétien.
Non. Vous avez répondu, mais ça me rassure.
Donc nous allons probablement des divergences d'ordre théologique et autres, mais le thème d'Israël et des nations est très important, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Il y a quand même un point, si vous voulez, un arrière-plan très important qui peut, disons, clarifier ce qu'on appelle le dialogue. C'est que la définition que donne, enfin à mon sens, c'est vous qui allez me corriger si je me trompe, la définition que donne un chrétien de lui-même a toujours besoin comme point de départ le judaïsme. Et une greffe d'olivier, donc ça commence par quelque part, tandis que traditionnellement le juif est indifférent à ce genre de problème, c'est-à-dire... le juif ne se définit pas, peut-être qu'il a tort, mais en tout cas c'est le fait est là, il ne se définit pas par rapport au christianisme, mais par rapport à lui-même. Et donc il y a ici une sorte de dissymétrie, si vous voulez, dans le dialogue. Ça peut avoir des conséquences importantes au niveau de ce qu'on appelle l'œcuménisme et les relations interreligieuses, interconfessionnelles. C'est que, on pourrait dire... La définition du chrétien nécessite une clarification du judaïsme, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Tandis que pour un juif, il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire le Rav Cherki parler avec des chrétiens, mais il n'a rien à faire, il va perdre son temps. D'accord ? L'Ancien Testament pour moi, pour comprendre qu'il y a un message universel d'Israël, ça va de soi. Et puis si vous rentrez dans la tradition rabbinique, ben, vous avez également Hillel l'Ancien, Rabbi Akiva, Maïmonide, enfin tout ça. Vous voyez qu'il y a une tradition bien claire, bien exposée dans toutes les bibliothèques rabbiniques, d'une tradition de message universel, une législation, même d'ailleurs ce qu'on appelle le noachisme, dont je m'occupe entre autres, et qui donc parle du message d'Israël aux nations, la parole de Dieu étant transmise par son peuple à l'humanité. Et donc, en fait, si Bergson a pu dire une chose pareille, c'est que, existentiellement parlant, il avait raison. C'est-à-dire, pendant très longtemps, les Juifs ont cessé de parler de ce dont il a parlé. Et ils ont cessé d'envisager dans l'immédiat d'être une bénédiction pour toutes les familles de la Terre. Et il y a à cela plusieurs raisons, je vais en donner simplement deux. La première, c'est pendant le temps des persécutions, les Juifs étaient occupés à leur survie immédiate, donc on n'a pas le temps de s'occuper des autres, on s'occupe de soi-même si on y arrive. Et la deuxième raison, c'est à partir de l'émancipation. L'émancipation a invité les Juifs à se fondre dans le décor, et donc la première préoccupation des Juifs, c'était de s'assimiler. Même s'ils restaient religieux, mais c'était de s'assimiler dans la culture ambiante, et donc cette idée que nous aurions quelque chose à donner aux nations ne traversait surtout pas l'esprit des rabbins. Et aujourd'hui, nous vivons un temps tout à fait différent, le temps du retour d'Israël à sa terre. Dans le temps de ce retour, nous retrouvons notre place naturelle. La place naturelle étant... Israël sur sa terre et dans son indépendance politique. Donc à partir du moment où il y a un État d'Israël, alors nous retrouvons notre fonction primordiale qui est celle qui a été donnée à notre ancêtre Abraham. Et là, je voudrais rentrer avec vous dans l'analyse de quelques versets de la Torah qui vont éclaircir ce problème. Bon, vous savez que la notion de peuple élu, quand on parle d'un peuple élu, élu de quoi ? Élu par rapport aux nations, évidemment. On dit en hébreu, Bachar banu mikol ha'amim, tu nous as élus d'entre toutes les nations, tu nous as choisis d'entre toutes les nations. Donc, cela suppose un arrière-plan, les nations. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'une élection s'il n'y a pas un arrière-plan universel. Donc, l'idée même d'élection est déjà universelle. Comme par hasard, la Torah commence son récit, non pas par l'histoire d'Israël, mais par l'histoire du monde. Et c'est sur l'arrière-plan de cette histoire du monde qu'apparaît la nation d'Israël, la nation hébraïque plus précisément, par tout un enchaînement d'engendrement d'identité par Abraham, Isaac, Jacob et tout le reste. Et donc ça veut dire qu'il y a ici une mission universelle des départs et que le point de départ de cette identité n'est pas l'accomplissement des mitzvot, ça c'est beaucoup plus tardif, mais le point de départ de cette identité c'est la réussite du projet de l'humanité. Et là, je voudrais m'attarder non pas sur l'histoire du jardin d'Éden et tout ce qui s'ensuit, le déluge. Ça, ce sont des sujets qui demanderaient une étude en soi. Je voudrais prendre comme arrière-plan la tour de Babel. Je voudrais vous citer ici un verset dans la Genèse, chapitre 10, verset 31. Vous vous en rappelez certainement, mais enfin je veux le rappeler quand même. Voici les fils de Shem, un des trois fils de Noé, selon leur famille et leur langage, dans leur pays selon leur nation. Le verset est un peu lourd, d'accord ? Je reprends le verset. Voici les fils de Shem, selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Vous lisez l'hébreu ? Non. Est-ce que vous avez un feutre ? Un feutre ? Alors je reprends ici. La Torah nous donne comme définition des groupes humains deux termes différents. Parfois elle les appelle des familles. Parfois elle les appelle des nations. Et on voit selon le même verset, donc dans Genèse 10, verset 31, que tout d'abord, les groupes humains sont appelés des familles, après ils sont appelés des nations. Du point de vue moral, il s'agit ici d'une chute. La preuve, c'est que le mot nation est écrit en bas du mot famille, donc c'est bien une chute. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Entre familles, la relation naturelle, c'est la paix. Entre deux familles, ben on est copains. On fait le week-end ensemble, on se marie ensemble. Il y a des relations d'amitié entre familles. La relation naturelle et normale entre les nations, c'est la guerre. L'exception, c'est la paix. Le prophète Isaïe vous dit, viendra un temps où une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation. C'est donc une innovation. On ne s'attendait pas à ça. Tiens, bizarre, les nations ne se font plus la guerre. C'est-à-dire qu'on est passé d'un état de paix à un état de guerre, tout simplement parce que la définition des groupes humains a changé. Quand la Torah nous parle des familles, elle nous parle de leur langage. Hésitez avec un U ou pas ?
Géa,
d'accord. Je comprends une difficulté par rapport à votre langue. Quand elle parle de nation, elle parle de leur pays. Alors, ça veut dire que, à partir du moment où la définition est devenue territoriale, s'établit une frontière, donc il y a celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, celui qui est à l'intérieur est un ami, celui qui est à l'extérieur est un danger, une menace. Donc, l'ennemi potentiel, il est en fait une autre humanité. La nation est une micro-humanité qui disqualifie celui qui n'y appartient pas. Vous connaissez ce document très important qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que ça commence par les droits de l'homme, mais ça, en fait, ça devient les droits du citoyen. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a cessé de parler du langage comme définition du groupe, et qu'on a commencé à parler du territoire, ça engendrait la guerre. Pour régler ce problème, il y a eu différentes stratégies. Une des stratégies, c'est celle de la tour de Babel. Une autre stratégie, celle d'un personnage dont la Torah parle très rapidement, Achour. Et après, elle parle d'Abraham. Quand elle nous parle d'Abraham, elle nous dit, et là je vais sauter beaucoup de détails qui pourraient être importants, mais nous n'avons pas tellement le temps. La Torah dit à Abraham, va-t'en du pays où tu es né, du pays de ta naissance, de ta famille, etc. Et rends-toi dans le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande, on devrait dire une grande religion. Or, on voit dès le départ que le projet est politique. Il s'agit donc d'aller vers une terre et de fonder là-bas une nation. Terre plus nation égale État. C'est-à-dire, le bon Dieu dit à Abraham, assez de t'occuper de religion jusqu'à présent, maintenant tu vas t'occuper de politique. Or, il y a ici un problème. Si la définition des groupes humains comme nation est négative sur le plan moral, pourquoi donc, dans ce cas-là, Abraham devrait-il fonder une nation? Ça ne cadre pas. Suite du verset, « Je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te bénissent, et par toi seront bénis toutes les... » Non. Ces familles de la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le texte? Tu es donc la seule nation de la terre dont l'identité nationale est légitime sur le plan moral. Parce que ton identité nationale devra ramener les nations à être des familles. C'est-à-dire, par Abraham, doit se enclencher un processus qui va amener les nations à redevenir des familles. Vous pouvez consulter dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, qui clôt le livre de Zacharie, il est question là-bas d'une grande guerre à la fin des temps, à la fin de l'histoire. Et dans cette grande guerre, que dans le prophète Ézéchiel on appelle la guerre de Gog et Magog, dans Zacharie, elle n'est pas appelée comme ça, mais peu importe, c'est la même chose. Il est question là-bas d'une guerre que font les nations à Jérusalem, qui vont s'attaquer donc à Israël. Donc Israël est supposé être revenu sur sa terre. Et à ce moment-là, il y a une conflagration gigantesque. Les nations attaquent Jérusalem. Et bon, il y a beaucoup de détails donnés par le prophète. Comme dans les bons westerns, c'est nous qui gagnons. C'est les bons qui gagnent. Et finalement, il y a une paix universelle qui est instaurée. Dieu devient un Dieu unique pour toutes les nations de la terre. Et là-bas, la Torah parle de ce qui se passe après. Enfin, pas la Torah, le prophète nous dit ce qui se passe après cette grande guerre. Et le texte nous dit « Vaya anotar mikol agoim, ceux qui resteront d'entre toutes les nations qui auront fait la guerre à Jérusalem, viendront se prosterner à Jérusalem une fois par an lors de la fête de Soukhot. » Et l'expression là-bas « ceux qui resteront des nations ». Là-bas, le terme « nation » est employé. « Goyim ». « Goyim » veut dire « nation ». Et puis après, qu'est-ce qui se passe s'il y a une nation qui décide de ne pas venir à Jérusalem? Et le texte nous dit « Ceux qui ne viendront pas de toutes les familles de la terre n'auront pas la pluie. » On ne dit plus le mot « nation », on dit « famille ». C'est-à-dire, ce qui reste du terme « nation », c'est la famille. Alors, le prophète dit « Oui, mais l'Égypte, elle n'a pas besoin de pluie. » Si la famille d'Égypte ne vient pas, alors il y aura une épidémie. C'est-à-dire que même l'Égypte, qui est une nation, est considérée à ce moment-là comme une famille, la famille de l'Égypte, « Mishpachat Mitzrayim ». Donc, si vous voulez, il y a ici tout un plan qui prend 4000 ans à peu près. On a fait quand même pas mal de travail depuis 4000 ans, depuis Abraham jusqu'à nos jours. Et ce travail doit amener une bénédiction pour les familles de la terre. Maintenant, je voudrais rentrer avec vous dans une subtilité de l'hébreu. Si vous avez des questions jusqu'à présent, c'est bon, parce qu'après, c'est le moment, parce qu'après, ça va se compliquer. Bon. Je reprends ici dans Genèse chapitre 12, verset 3, quand il est dit « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre ». C'est la traduction classique que je viens de vous donner, mais qui est fausse. Parce que bon, pour les hébraïsants parmi vous, le mot « ve-ni-vre-hu » Voilà. Ce terme veni vrechou, qu'on traduit en général seront bénis, n'est pas le bon terme. En hébreu, on devrait employer une autre expression, c'est vehit barechou. Vehit barechou, n'est-ce pas? C'est la forme itpael. Le veni vrechou est un ifal qui en fait signifie précisément par toi seront marcotées toutes les familles de la terre. Non, avec un seul T, je crois. Seront marcottées toutes les familles de la terre. Le marcottage, vous savez très bien ce que c'est, si il y a parmi vous des viticulteurs, c'est quand on prend. C'est pas une greffe. C'est pas une greffe. Non, non. C'est on prend un sarment de la vigne que l'on enterre dans le sol, et on enterre le bout sans couper le sarment, et à partir de là, le sarment donne des racines et donne un nouveau cep de vigne. D'accord ? Cette opération est appelée en hébreu avracha, en français marcottage. Et ça voudrait donc dire que si en toi seront marcottées toutes les familles de la terre, donc Abraham, dans cette image, est représenté comme étant le terreau. Et les nations sont représentées comme des vignes qui rentrent dans la terre qui est Abraham pour donner une nouvelle vigne. C'est-à-dire qu'il fait ici une réunification des 70 nations de la Terre. 70 chiffres typologiques. Vous me suivez jusqu'à présent?
Oui.
Bon. Ça veut donc dire quelque chose de très important, c'est que l'universalisme dont il est question ici est un universalisme d'appel et non pas de conquête. C'est-à-dire très souvent, il y a dans les civilisations une prétention à l'universel qui, en fait, très rapidement devient de l'impérialisme. Il y a par exemple, je crois, il y avait un pays d'Europe où il y a eu une grande révolution qu'on appelait la révolution universelle. Cette révolution universelle est devenue en 20 ans de l'impérialisme. N'est-ce pas? Ou bien l'argument colonialiste, qui est, il y a des nations que nous devons libérer de l'ignorance, donc nous allons leur apprendre à être des Français, ou des Britanniques, ou des Américains. C'est-à-dire, il y a dans l'intention universelle se cache souvent le désir de domination, de prendre une identité et de l'imposer aux autres. Et donc, l'humain devient celui qui a un béret et qui mange de la baguette et qui est abonné au Gaz de France. D'accord ?
C'est Engie.
Hein ?
C'est Engie.
Engie. Ah, écoutez, je suis un peu rétro. Bon, tandis que là, ce dont il s'agit, c'est que chaque nation soit elle-même, mais qu'elle ait un foyer autour duquel elle peut s'organiser. C'est-à-dire, il y aurait donc un centre et une périphérie. La centre ne prend pas la place de la périphérie, et la périphérie ne prend pas la place du centre. Jusque-là, vous me suivez ? Bon. Là, je voudrais donc vous introduire un enseignement du Rav Kook. Vous avez certainement entendu parler du Rav Kook ?
Oui.
Le Rav Kook, dans une réflexion qu'il fait sur les prophètes, les prophéties de la guerre de Gog et Magog, pose la question suivante. Comment la guerre de Gog et Magog est-elle possible ? Comment est-il possible, demande le Rav Kook, ne rappelez-vous qu'il vivait avant la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où il y avait une très grande naïveté par rapport à l'évolution morale de l'humanité. Tout le monde était persuadé que le monde devient meilleur, n'est-ce pas ? Il y avait un temps comme ça. Et le texte dont je vous parle a été écrit d'ailleurs avant la Première Guerre mondiale, alors à plus forte raison, cette idée que tout va aller mieux. Et donc le Rav Kook pose la question suivante. Comment est-il envisageable que l'humanité, qui est tellement redevable à Israël, aussi bien sur le plan moral qu'au niveau de la foi, au niveau de beaucoup de choses, puisse un jour s'organiser contre Israël, avec une telle ingratitude. Et cela est-il possible? Et le Rav Kook prend une image, il prend l'image du cercle. Il dit, tant que le point central du cercle n'est pas clair, tout cercle peut devenir autre chose. C'est-à-dire, si on ne sait pas où est le point central d'où émanent les valeurs, à partir du moment où il y a une confusion dans le point central, tout peut se renverser. Et la guerre de Gog et Magog, justement, enfin, ce processus est censé clarifier quel est le point d'où tout commence. Et c'est ça qui se révèle lors de cette guerre-là, dont il est question dans Zacharie. Puisque nous parlons de Zacharie, passons au chapitre 2. Au verset 15, si déjà vous avez la patience de feuilleter. Le texte nous dit « Venilvu goyim rabim elashem bayom ahu. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. » Tenez-vous bien toujours, le terme goyim dans la Bible signifie une nation. En hébreu moderne ou en hébreu rabbinique, le mot goy désigne un individu, celui qui n'est pas juif. Mais dans la Bible, le mot goy signifie une nation. Donc quand le prophète nous dit que de nombreux goyim s'associeront à Dieu, il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de nations. Et quand il s'agit de nations, et ces nations s'associeront à Dieu pour devenir pour moi un peuple, vehayuli le'am, et seront pour moi un peuple. Très surprenant pour un hébreu, comment une nation qui n'est pas Israël deviendrait le peuple de Dieu? Et le texte continue. Mais je continuerai à résider en toi, et Dieu élira à nouveau Jérusalem. C'est-à-dire que, dans le projet tel qu'il est présenté par le prophète, Israël a été le premier dans l'histoire à être peuple de Dieu, mais d'autres nations sont invitées à le faire. Et à partir de ce moment-là, donc Israël remplit une nouvelle fonction qui n'est plus celle de peuple, mais celle de prêtre. Comme dit le texte dans l'Exode, vous serez pour moi une nation de prêtres, un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Or, les prêtres, en Israël par exemple, le Kohen est le prêtre d'Israël. Si Israël devient le prêtre des nations, donc les Kohanim d'Israël deviendront des grands prêtres. Et le grand prêtre deviendra Superman. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu une ascension mutuelle, puisque les nations deviennent Israël, Israël donc devient grand prêtre, etc. Et donc il y a ce projet-là. Remarquez toujours que le projet est de nature politique. Ce projet n'est pas de nature individuelle. C'est-à-dire, contrairement à ce que font les religions, Israël s'occupe de politique. J'entends par là quoi? La religion a pour, si vous voulez, elle s'adresse à l'individu. L'individu comme étant l'objet de la sainteté, la sanctification de la vie. Tandis que quand on parle de politique, ça veut dire que c'est la collectivité, l'idée de sainteté collective qui apparaît. Je suppose que vous n'ignorez pas que ça a été une des causes de la divergence du christianisme et du judaïsme à l'origine. Israël attendant le fils de David pour être libéré de la domination des Romains, donc le projet est donc politique, le projet messianique est politique tout d'abord. Tandis que le christianisme, à son origine, a dit qu'il faut passer par la rédemption des âmes, des individus, l'individu étant entaché de quelque chose dès le départ, donc il faut le libérer. Donc il y a ici, en fait, un passage, un retour au collectif dans le projet des prophètes. De manière surprenante, l'interprétation de Rashi sur le slogan du judaïsme. Le slogan du judaïsme, vous connaissez, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, eh bien le Seigneur, enfin ça dépend comment on traduit. On a l'habitude de dire que ce verset de la Torah est une proclamation du monothéisme, n'est-ce pas? L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc ça veut dire, c'est du monothéisme. Et Rashi donne une interprétation de ce verset qui est contraire au monothéisme. Mais en fait, il a tout à fait raison dans la lecture obvie du texte. Il dit « L'Éternel qui est notre Dieu ». Ça veut donc dire « Notre Dieu et pas celui des nations ». Il y a une lecture anti-monothéiste, quasiment polythéiste, dans Rashi. L'Éternel qui est notre Dieu sera un jour un Dieu un pour tout le monde. Et ce qui suppose que pendant le cours de l'histoire se fait une transformation, pour dire quasiment théologique, de la révélation. Dieu se révèle tout d'abord à son peuple et après à travers son peuple à toute l'humanité. Mais le projet, comme je le dis, est un projet de type collectif. De nos jours, il y a, une grande recherche spirituelle et morale qui englobe toute l'humanité. Il y a une préoccupation spirituelle véritable, et cette préoccupation vient après une période de laïcité extrêmement forte, qui a ses origines déjà au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui il y a un retour du spirituel, et on peut dire que nous vivons aujourd'hui une lutte, un conflit d'ordre mondial concernant l'hégémonie des valeurs. C'est-à-dire que dans l'affrontement des civilisations, terme employé ces dernières années, on parle beaucoup d'affrontement des civilisations, il y a un débat qui n'est pas seulement politique et pas seulement violent. Il y a un débat, moral. Moral. Et il s'agit de savoir qui, parmi les grandes civilisations, donnera le ton, le ton des valeurs dans l'humanité. Il y a actuellement, pourrait-on dire, quatre foyers qui se dégagent dans cette lutte. Le premier, c'est la civilisation occidentale, qui, jusqu'à ce jour, est encore le leader. C'est la civilisation qui est responsable de fixer les normes morales dans le monde. Cette civilisation a plusieurs sources. Elle a une source chrétienne, elle a une source philosophique. C'est ce qu'on appelle l'Occident, et affirme être celui qui détermine les valeurs. Il y a aujourd'hui une tentative de renverser ça. Cette tentative vient de l'islam. L'islam est en train de tenter un coup de force de remplacer l'échelle des valeurs, d'être celui qui va définir. Il y a un troisième foyer qui est moins actif, en tout cas moins agressif, c'est l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, avec tout ce qu'il porte de valeurs, entre autres dans le bouddhisme qui est très populaire. Il y a un quatrième foyer qui est endormi, c'est Israël, c'est nous. Nous avons quelque chose à dire, mais nous ne nous disons pas. On peut dire que il y a depuis le retour d'Israël sur sa terre une attente de la part des nations de savoir mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces gens-là. Il y avait un Suisse du nom de Jean-Jacques Rousseau, vous avez probablement entendu parler, qui a dit dans l'Émile, il est absolument certain en Sorbonne, la Sorbonne à l'époque était une université religieuse, que les prophéties d'Isaïe concernent Jésus-Christ. Il est tout à fait évident, avec la même certitude pour les rabbins d'Amsterdam, que ça n'a rien à voir. Et il dit donc, je pense que je ne pourrai comprendre les juifs que lorsqu'ils auront un état à eux, avec des universités et des écoles où ils pourront s'exprimer sans crainte, c'est alors que nous pourrons savoir ce qu'ils ont à nous dire. Fin de citation. Donc, il y a une attente. Les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre. Les nations leur disent, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire? On n'a rien à vous dire, on est des Occidentaux comme tout le monde. Alors, vous avez chamboulé notre théologie, vous nous avez ébranlé, et tout ça pour rien. Vous êtes donc des menteurs. C'est pas à vous, rendez ça aux Palestiniens. D'accord? C'est-à-dire, il y a, et bon, ça c'est, disons, c'est une critique que j'adresse à mes amis juifs, il faut savoir que pour l'humanité, Israël, c'est pas neutre. Ça représente quelque chose dans le subconscient collectif des nations. Argument que j'entends parfois chez les Israéliens. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai pour les chrétiens, c'est pas vrai pour l'Occident qui est laïque aujourd'hui. Mais en fait, la laïcité est encore plus chrétienne que les chrétiens qui sont conscients, pour une raison très simple. si j'adopte une foi ou une religion, eh bien, je suis conscient de ce en quoi je crois. Mais si j'ai rejeté ma tradition, cette tradition continue à me travailler dans mon subconscient, à mon insu. Ce qui veut dire que je pense que l'occidental moyen non chrétien est en fait beaucoup plus imprégné de christianisme que les chrétiens conscients. J'espère que ça ne vous vexe pas. Bon, en tout cas, peut-être ça vous console. je reviens donc à... Il faut bien comprendre que le fait État d'Israël est signifiant au niveau des valeurs, aussi bien pour le monde chrétien que pour le monde musulman, et je dirais même pour l'ensemble de l'humanité. Donc nous avons quelque chose à dire. Et dans cet affrontement des civilisations, qu'est-ce que nous avons à dire? Je voudrais ici donner deux points importants. Tout d'abord, quel est le fondement moral de ce conflit entre l'Orient et l'Occident? Il y a une donnée héritée de la philosophie grecque qui est, dans le monde occidental, que l'homme est au centre du monde, de l'anthropocentrisme. Et Dieu dans tout ça? Dieu, s'il existe, il est dans la périphérie. Il a laissé à l'homme la domination du monde. C'est une thèse gréco-chrétienne qui est adoptée par le monde occidental. Je sais que je suis un peu schématique, mais c'est à peu près comme ça. Dans cet ordre d'idées-là, le régime politique idéal, c'est la démocratie. Encore plus la démocratie libérale. Parce que la démocratie, justement, dit à l'homme, c'est toi qui es responsable de ton sort. Dans le monde islamique, cette idée-là est blasphématoire. C'est purement du blasphème. Comment ? Ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde. C'est Dieu qui est tout. Si l'homme a une place, au grand maximum, dans la périphérie, il doit se soumettre. Signification du mot islam en arabe. Soumission. Muslim, soumis. Et donc la relation d'ailleurs entre le musulman et le non-musulman, entre l'homme et la femme, entre le chef d'État et le public, c'est à peu près comme ça. C'est une hiérarchie de soumission. Sur cela se greffent des arguments de type moral. La décadence morale, la licence qu'on voit en Occident, tout cela donne de l'eau au moulin de l'islam. Et si c'est vrai ce que je vous dis là, le conflit est inévitable, il n'est pas résolu. On ne veut pas résoudre un conflit pareil. À moins de proposer un schéma dans lequel les deux peuvent se reconnaître. Ce schéma existe, c'est le schéma de la société d'Israël tel que les prophètes nous l'enseignent. Dans la société d'Israël, ce n'est pas Dieu qui est au centre du monde, ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde, c'est le dialogue entre eux, la rencontre. Il y a une sorte d'intimité. Vous savez qu'il y a toujours un symbolisme conjugal chez les prophètes entre Israël et son Dieu. C'est-à-dire, c'est une relation de couple. Dans un couple, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs chez les prophètes le face-à-face. Le face-à-face n'est pas une union mystique, ce n'est pas une disparition, une annihilation de l'être, c'est une rencontre, un dialogue sympathique entre le Créateur et sa créature. Or, ce dialogue est instauré dans la nation d'Israël, sur sa terre. C'est un premier point, donc, nous pouvons, si nous prenons nos responsabilités, nous autres les enfants d'Israël, proposer ce schéma aux nations, et dans ce cas-là, les nations s'y retrouveraient. Deuxièmement, il y a également un message moral. Le message moral, c'est ce qu'on appelle, traditionnellement chez nous, l'unité des valeurs. Ça mérite d'être écrit comme ça. D'accord ? Unité des valeurs. Je tiens à vous rappeler, lorsqu'il y a eu récemment une guerre à Gaza, ce qu'on appelle plomb durci, enfin Tsouketan. Non, Tsouketan, je confonds. Il y avait Frère Tsouketan, et Tsouketan, c'est la dernière guerre que nous avons eue à Gaza. le monde entier envoyait des délégués pour parler aux Israéliens. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères britannique qui est arrivé en Israël et qui a dit la chose suivante. Tout d'abord, Israël a le droit de se défendre. C'est très sympathique qu'on dise à quelqu'un « Vous avez le droit de vous défendre ». C'est-à-dire, depuis, est-ce que quelqu'un a pensé à dire que la France a le droit de se défendre si elle est attaquée? Mais enfin, bon, en tout cas, c'est bien, de temps en temps, on nous dit, vous avez le droit, c'est bien, hein, on accepte, vous pouvez vous défendre. Mais, a dit le ministre britannique, mais n'oubliez pas votre engagement par rapport à votre morale occidentale. C'est le terme qui est employé, votre morale occidentale. C'est-à-dire, ça exprime quoi? On a peur. Peut-être que les enfants d'Israël vont avoir une échelle de valeur à eux, qu'ils vont essayer de nous imposer, de nous enseigner, de remettre en question la nôtre, etc. Alors, faites attention. Vous êtes des Occidentaux qui vous défendez. Vous faites partie de nous, de notre sphère. En fait, je pense que c'est faux. Nous n'appartenons certainement pas à la sphère morale de l'islam, mais nous aurons peut-être quelque chose à dire. L'unité des valeurs, ce qu'on appelle la charité et la justice. Traditionnellement, le christianisme a hérité de l'idée de charité comme étant le point central, l'ultime de la morale. L'islam a un peu oublié ça, on parle de justice. C'est vrai qu'au début de chaque sourate, il est dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom du Dieu bon et miséricordieux. Mais ce qui vient après le titre dit un peu le contraire. En tout cas, quand on voit ce que dit Dieu d'Abraham dans le chapitre 18 de la Genèse au verset 18, je crois, 18 ou 17 ou 19, enfin, quelque chose dans ces eaux-là, il dit « Je l'ai aimé, je l'ai élu, afin qu'il enseigne sa descendance à pratiquer tzedaka ou mishpat, la charité et la justice. » Or, la charité et la justice sont des valeurs contradictoires. On ne peut pas faire charité et justice à la fois. Et pourtant, il y a un projet de faire à la fois charité et justice. Cette idée que l'unité des valeurs est réalisable, c'est une idée particulière à Israël, raison pour laquelle le Messie porte comme nom, dans le livre de Jérémie, Hachem Tzidkenu, le Dieu de notre justice. C'est-à-dire, le Messie ne vient pas donc amener la charité sur la terre, ça on sait le faire sans lui, mais il vient amener également la justice. Alors la justice, ça se passe par le politique. Je voudrais vous faire part d'une expérience littéraire que j'ai eue. J'ai lu un livre d'un certain Français du nom de Victor Hugo, c'est ça. Les Misérables. Vous connaissez Les Misérables? Très beau livre d'ailleurs, très bien écrit. Qui porte, si j'essaie de résumer un peu la thèse qu'il y a derrière ce livre, qui est très émouvant, qui a fait bouger beaucoup de choses. La thèse, c'est que le monde est cruel, le monde est indifférent, la société, avec ses grandes institutions, écrase l'individu. Mais il y a un moyen, quand même, de faire avaler la pilule, d'adoucir la pilule de la vie sur Terre, c'est avec un peu de charité chrétienne. C'est-à-dire, si vous passez, si vous êtes bon envers votre prochain, vous êtes généreux, vous pouvez surmonter ça. Mais ce que ce livre ne dit pas, c'est comment transformer les institutions politiques. C'est-à-dire, le projet politique ne fait pas partie il n'y a pas de projet moral pour le politique. Or, ça, c'est exactement le contraire de ce que nous enseignons, c'est l'unité des valeurs. Autre point, et donc ça peut faire partie également d'un message particulier, donc des valeurs morales d'Israël. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire aujourd'hui avec les nations, surtout à la lumière des événements actuels. Je ne parle pas seulement des élections en Amérique, mais je parle également de l'agression de l'Occident par l'islam, dont il faut absolument être conscient. Peut-être que nous autres, les enfants d'Israël, nous aurions quelque chose à enseigner aux nations à ce propos. Et là, je voudrais, avant de vous laisser poser des questions, il y a du temps pour les questions ou vous êtes pressés?
Oui.
Non, ça va? D'accord. parler d'un point très important, ce qu'on appelle la doctrine noachide, le noachisme. Vous avez entendu parler de ça. J'ai moi-même fondé une association qui s'appelle le Centre Noachide Mondial, ou Bricolat en hébreu, qui s'occupe de diffuser le noachisme. D'ailleurs, j'ai entendu une fois sur Internet une émission de radio en France, je ne sais plus de quelle chaîne, peut-être une chaîne un peu locale, dans laquelle il y a une critique du noachisme, dans laquelle on dit, oui, le noachisme est une religion dont on parle dans les textes, mais qui n'existe pas. Ben, aujourd'hui, ça existe. Ça existe, il y a plusieurs milliers, peut-être des dizaines de milliers, d'individus sur Terre qui se définissent comme noachides dans leur religion. C'est quoi le noachisme ? Ben, c'est la doctrine, c'est disons la doctrine minimale d'Israël pour les nations. Puisqu'on parlait d'Israël et des nations, de quoi il s'agit ? Vous savez que dans la tradition juive, il y a 613 commandements, la loi qui porte 613 commandements, et pour les nations, il y en a
7.
Il y a un écart assez énorme, d'accord ? Et les 7 commandements noachides sont quasiment tous négatifs. Ne pas. Le 7e commandement n'est pas négatif, mais il est structurel. C'est avoir des tribunaux. Donc, en fait, c'est comme si la tradition d'Israël disait il y a un minimum pour établir le dialogue, c'est d'accepter les 7 commandements noachides, mais on ne vous demande pas plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on dit plus, ça veut dire imposer un schéma de comportement. Or, le schéma de comportement de chaque nation est fonction de sa civilisation. C'est-à-dire, ce que un Français peut adopter des mitzvot de la Torah n'est pas identique à ce à quoi un Indien pourrait accepter des mitzvot de la Torah. Et donc, c'est à dessein que la tradition d'Israël a limité les exigences par rapport aux nations au chiffre de 7, non pas que ce soit un maximum, c'est donc au contraire un minimum. Mais ça passe tout d'abord par ce qu'on appelle l'acceptation de cette loi noachide, qui introduisent celui qui accepte cette loi dans une alliance antérieure à celle qui a été contractée entre Dieu et Israël. L'alliance entre Dieu et les hommes, telle qu'elle est écrite dans le chapitre 9 de la Genèse, où il est question justement de l'alliance après le déluge, eh bien cette alliance est antérieure donc à l'apparition d'Israël sur la terre, et accepter les 7 commandements noachides, cela en fait permet de participer de cette alliance. Et vous allez me dire ce que on m'a dit souvent, mais les 7 commandements noachides, c'est à peu près identique à la morale universelle, il n'y a rien de nouveau. La différence, dit le Talmud, dans le traité de Baba Kama, page 38a, pour ceux qui s'y connaissent, les Talmudisants, le traité de Baba Kama nous dit la différence, c'est si c'est une mitzvah ou pas une mitzvah. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Si vous accomplissez un acte moral, vous vous acquittez d'un devoir moral, pour des raisons morales, eh bien vous avez acquis une plénitude morale. Vous êtes un bon être humain. Si vous accomplissez la même chose, mais parce que c'est un commandement de Dieu, alors vous êtes en relation directe avec le Créateur du monde, avec l'infini, avec la transcendance. Et alors ça, c'est ce que la différence entre Metsuvé-Vé-Ossé, celui qui accomplit un commandement volontairement ou parce qu'il en a reçu l'ordre. Donc, le noachisme, c'est s'introduire, si vous voulez, dans l'alliance, non pas l'alliance d'Abraham, mais l'alliance de Noé, qui permet de retrouver le contact, de rétablir le contact avec le Créateur du monde. Si vous voulez, on pourrait donner comme image du monde dans cette vision-là. Le monde ressemble à une maison. Cette maison a un toit. C'est important qu'il y ait un toit, parce que s'il n'y a pas de toit, on est brûlé par le soleil. Donc il est bien qu'il y ait entre le soleil, si vous voulez, dans notre représentation à nous, le créateur du monde, il faut qu'il y ait un écran entre le créateur et la créature. Cet écran est très important parce qu'il permet l'autonomie de la créature. Mais il faut quand même qu'il y ait une cheminée pour pouvoir respirer un peu d'air divin, un peu de transcendance. Cette cheminée doit être, de temps en temps, nettoyée. Le rôle d'Israël, c'est d'être les rameaux noirs de cette cheminée. Ce qui vous explique la couleur noire qu'on voit souvent chez les temps des vêtements des Juifs. C'est-à-dire, il y a ici donc une cheminée, il faut qu'elle ne soit pas trop encombrée, il ne faut pas qu'elle soit trop vaste. C'est une des raisons pour lesquelles le peuple juif est un petit peuple, parce que s'il y avait trop de Juifs sur Terre, eh bien, on serait ébloui. C'est-à-dire, être en contact direct avec la divinité n'est pas une chose facile pour les humains, et c'est la raison pour laquelle le Talmud dit que volontiers la civilisation humaine a été abandonnée aux nations. Ce sont les nations qui doivent s'en occuper, parce qu'Israël est occupé à autre chose. D'accord ? Donc, si on pourrait dire, c'est ça le projet dont il est question. Ce projet de Noachisme commence aujourd'hui à être diffusé. Il fait partie, si vous voulez, du projet d'Israël. Il ne peut pas être un projet seulement de type religieux, c'est-à-dire qu'il se cantonnerait à l'accomplissement d'un rituel. Il doit être également avoir une dimension politique et internationale. Je tiens à vous rappeler que le droit international a été inventé par un Hollandais du nom de Grotius et par un Britannique du nom de Selden, qui ont basé l'idée de droit international sur les lois noachides, dans un livre en latin, qui a été traduit d'ailleurs récemment en hébreu. Donc si vous voulez, je reviens ici donc sur l'importance de l'idée de commandement. Vous savez que le Talmud nous dit quelque chose d'assez énorme. Le Talmud dit, et là je voudrais finir avec ça, que les lois noachides ont été suspendues. Comme si Dieu disant, ah oui, les goïms ne veulent pas des sept lois noachides, on autorise. Ah bon, le Talmud dit, mais c'est pas possible une chose pareille. Ça veut dire que si on ne veut pas de la loi, on en est dispensé? Et alors le Talmud rajoute, non, ils n'en sont pas dispensés, mais ils n'en sont pas récompensés comme quelqu'un qui l'accomplit comme mitzvah. Ce qui voudrait dire que la loi continue à être accomplie, mais pas en tant que commandement. Parce que c'est comme si les nations disaient, la loi, c'est une malédiction. Il vaut mieux accomplir la loi en tant que devoir moral, mais pas en tant que loi. N'est-ce pas ? Mais il faut continuer, parce que c'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de l'Israël des nations. J'ai essayé d'être assez rapide et succinct. Je suppose que vous avez des réactions, des questions. Je suis à votre disposition.
Un petit peu de temps pour les questions.
Bonjour. Ah, il est arrivé.
D'accord.
Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein, peut-être que... Non, mais ils sont très intimidés, je vous dis, ils sont très intimidés. Allez-y.
Ah, voilà.
Okay. Okay. Okay.
Quand on est civil, vous connaissez le Nouveau Testament aussi,
bien sûr. Oui. J'ai même fait une allusion d'ailleurs. J'ai même fait une citation allusive.
Oui. Dans les actes des apôtres, oui. Il y avait l'assemblée de Jérusalem.
Un synode, non ?
Oui.
Concile. Bon, assemblée à Jérusalem, bon, oui. Oui.
Et là, les prescriptions qui ont été, la décision de cette assemblée, dit souvent que c'est
Les lois noachides, oui.
Les lois noachides, c'est
mal traduites d'ailleurs. Par exemple, une des décisions là-bas, c'est de se couvrir la nudité, n'est-ce pas ? Je crois que. Oui, et ne pas de se couvrir la nudité, je crois, non plus. Non, il n'y a pas ? Pas dans ce texte-là. Bon, d'accord. Oui, alors.
Oui.
Oui, en tout cas, bon, certains voient là-dedans une influence justement de ce qu'on appelle la loi noachide.
Oui. Est-ce que c'est un parallèle, on peut faire un parallèle entre ça, enfin, ce qu'ils ont essayé de faire à l'époque et
oui, disons comme ça, l'analyse d'un rabbin de Livourne au 19e siècle, le rabbin Ben Amozeg, vous avez peut-être entendu parler, Elie Ben Amozeg, dans son livre Israël et l'humanité, affirme que le christianisme à son origine a été une tentative justement de réaliser le projet noachide. Oui. Bon, il y a eu après, du point de vue juif, une déviation par rapport à ce que ça aurait dû être. Si déjà on en est là, complétons ça également par l'islam. Vous savez que dans le Coran, il y a deux types de sourates. Les sourates de la Mecque et celles de Médine. Celles de la Mecque sont antérieures, celles de Médine sont postérieures. Or, si on analyse uniquement le message de la Mecque, Mahomet fait un pur noachisme. Il vient au nom des prophètes d'Israël proposer la loi aux Arabes. À Médine, alors il devient antisémite, et là tout change, c'est là que l'islam est véritablement fondé. Je me rappelle avoir eu une fois dans un dialogue avec un imam musulman, il m'a demandé « qu'est-ce que vous pensez de Mahomet ?» C'est très important, vous savez que le blasphème contre le prophète, c'est pire que le blasphème contre Dieu. Et je lui dis ben, « pour que le dialogue soit possible, faites remarquer la différence entre la Mecque et Médine. » Il était tout content. Enfin, il m'a embrassé, il m'a béni en arabe, etc. Je pense qu'en public, il ne l'aurait pas fait.
Mais ce rôle que vous accordez, que vous relevez par rapport à Israël, moi, ça me faisait penser à la répercussion dans les médias dès que Israël fait quelque chose. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose en Israël, on en parle. Mm-hmm. Alors, souvent pour condamner, hein.
Oui, bien sûr. Oui, il y a une obsession permanente.
Mais en même temps aussi, mais pourquoi se focaliser sur ce pays alors que quand l'Arabie Saoudite, on parle de Yémen, on n'en parle pas.
Oui, oui.
Et est-ce que pour vous, ça a un lien ?
Absolument. Disons que, ça revient un peu à ce qu'on avait dit à propos du subconscient collectif de l'humanité. Qu'est-ce qu'Israël dans ce subconscient ? Or, Israël est une interrogation. En tout cas, quelque chose qui ébranle les idées reçues. Je dirais même plus que ça. L'État d'Israël est un événement biblique en pleine modernité. Ça, on n'avait pas l'habitude. On savait qu'il y a eu l'histoire sainte, la Bible, et puis c'est fini. Et puis, vous savez, il y a des manuels d'histoire sainte. C'est-à-dire, s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. Et ce qu'affirme la tradition juive, c'est que l'histoire est sainte. Il n'y a pas d'histoire sainte, d'histoire profane. Toute l'histoire est un lieu de révélation. Et donc, quand un événement biblique se produit en plein XXe siècle, on se dit, ben alors, ça voudrait dire peut-être que c'est la Bible qui sait lire l'histoire. Mais allons plus loin. Si ça s'est fait à la manière dont les Juifs en parlent, alors peut-être que ça voudrait dire que c'est la manière dont les Juifs lisent la Bible qui est la bonne. Alors ça, c'est terrible. Alors on veut vérifier ça. Et pour pouvoir éviter les conclusions auxquelles ça pourrait amener, alors on va investir une quantité énorme d'énergie pour prouver que l'État d'Israël est un État méchant. D'accord ? Et donc on fera tout ce qui est possible pour le prouver. Toutes les calomnies possibles. D'accord ? Tandis que, bon, l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, bon, on a l'habitude, les nations ont des intérêts, elles sont méchantes l'une envers l'autre, bon, ça va. Oui. Bon, ben merci de votre attention. Ah oui, allez-y. Non, si vous voulez. Ben, je vous remercie profondément de votre attention. Et bon voyage. Voilà.